Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'Albert Pell, qui a sévi à la fin du 19e siècle en région parisienne, et que depuis on a appelé le grand frère de Landru pour sa capacité à faire disparaître les cadavres des femmes dans le fourneau de sa cuisine. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Vous connaissez Montreuil ? Aujourd'hui, c'est une ville de 100 000 habitants collée à Paris, à l'est. Mais au temps de mon histoire, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, les années 1880, c'est disons un gros bourg. Pas tout à fait un village, n'exagérons pas, mais une petite ville qui ne fait jamais parler d'elle. Ou si peu. Le 22 juin 1884, un certain Albert Pell s'installe au 9 rue de l'Église à Montreuil. Il est horloger, il vient de racheter une boutique pas très loin. Et il emménage avec une femme, qu'il présente comme sa femme. Ce que d'entrée les gens de l'immeuble ont un peu de mal à croire. C'est pas sa femme, parce qu'elle n'a pas le même nom que lui. Elise Baumer, qu'elle s'appelle. Et lui, Albert Pell. Faut pas qu'il nous raconte des salades, l'horloger, là. C'est pas sa femme. Et de ce qu'on m'a dit, c'est une de ses anciennes employées d'une boutique qu'il avait à Paris, avenue Kléber. Donc, c'est pas sa femme. Quelle importance, en vérité, que ce soit sa femme ou pas sa femme. S'il l'aime, c'est pas leur problème à toute cette bande de commères. En revanche, ils ne sont pas très causants, ces nouveaux voisins. Ça, c'est vrai. Lui, Albert Pell, austère, bourru, avec ses costumes de croque-mort et sa tronche tout allongée, comme ça. Un type un peu saumâtre, vous voyez. Et elle, c'est pas mieux, hein. La Élise, là, pas très sociable non plus. La voilette de son chapeau toujours rabattie sur le visage. C'est simple, dans l'immeuble, on ne la voit que quand elle va vider ses eaux sales dans la cour. 10 jours après leur arrivée au 9 rue de l'Église, Madame Chesnel, une voisine qui est lingère, croise Élise Baumer sur le palier. Toute pâle, au bord de tomber.
« Mais qu'avez-vous donc, ma Élise ?»«
Oh, je souffre tellement, si vous saviez. »«
Moi, je m'en vais vous conduire à votre lit. »«
J'ai soif. »«
Bougez pas, j'ai de l'eau de Vichy chez moi. »« Je vous la porte. »
Élise avale toute la bouteille. « Oh, merci, madame. » Oh, ça fait du bien. Je sais pas ce que j'ai, mon estomac me brûle. Ça fait une semaine que je suis comme ça.
Vous devriez faire venir un docteur.
C'est qu'Albert ne veut pas.
Oh, pourtant, malade comme vous êtes.
Il veut pas. Déjà, s'il savait que vous êtes rentré chez nous.
Ouais, ben, je reviendrai quand même, hein, prendre de vos nouvelles.
D'accord, c'est très gentil de votre part, mais... Mais seulement quand il n'est pas là. Je vous en prie.
Elle a l'air terrifiée, cette Élise. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à tailler des croupières à l'horloger. La concierge en tête, évidemment. Madame Weinsbach.
Oh, mais tout ce que vous me dites. C'est un monstre, cet homme. Je vais lui parler, moi.
Le soir même, elle guette le retour d'Albert Pell. Et quand il entre, coiffé de son chapeau melon, elle sort de sa loge.
« Mal bonsoir, monsieur Pell. Il paraît que votre femme est souffrante. Oh, quelques petits malaises. Rien de grave. Vous pensez pas qu'il faudrait aller chercher un docteur ? Je suis allé en voir un. Il n'a pas voulu se déplacer. Vous savez ce que c'est, hein ? Ah, mais moi j'en connais un qui se déplace. Je m'en vais vous l'indiquer. C'est pas la peine, madame Weinsbach, c'est pas la peine. Bien le bonsoir. »
Et Albert Pell plante là la pipelette et il rentre chez lui. Le lendemain, madame Chesnel, la voisine lingère, comme elle l'a promis, vient voir la malade en cachette.
« Oh, madame Chesnel...
c'est bien gentil de venir me voir. Je suis pas bien du tout.
Bougez pas. Je m'en vais chercher un docteur.
Mais son docteur n'est pas disponible. Il est en plein accouchement. Le lendemain, une autre voisine, Madame Devin, croise Élise alors qu'elle vient jeter ses ordures dans la cour.
Alors, comment vous sentez-vous?
Oh, je vais mal. J'ai des nausées et toujours mon ventre qui me brûle.
Il vous faut aller voir un docteur.
Mais Albert ne veut pas, madame. Il ne veut pas.
Et Élise remonte chez elle. Et c'est la dernière fois que l'on voit Élise Baumeur dans l'immeuble. Le lendemain, dimanche, le couple ne sort pas de chez lui. Et le lundi, c'est le 14 juillet. Albert Pell apposte sur sa boutique un petit panneau. Fermé pour cause de fête nationale. Et on ne le voit pas de la journée. Et le jour d'après, alors qu'il part travailler, la concierge l'alpague devant sa loge.
Bien le bonjour, monsieur Pell. Alors, comment va madame Pell? Elle va mieux?
Oui, elle va mieux. Elle est partie chez des amis pour se reposer.
Partie chez des amis? Mais enfin, la concierge qui a les yeux partout et les oreilles ailleurs n'a pas vu de fiacre s'arrêter pour venir la chercher. Et si la dame était partie à pied, elle l'aurait vue. Elle voit tout, madame Vanspach. Tout. C'est pour ça qu'on la paye, d'ailleurs. Et elle ne se force pas beaucoup. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à jaspiner. La voisine, madame Chenel, en tête.
Oh, quand même, moi qui me suis inquiété d'elle. Elle aurait pu me dire au revoir, hein? Je l'ai vue samedi, elle avait l'air si malade. Je me demande même comment elle a pu se lever et partir en voyage.
Mais c'est dans la soirée que ça se gâte, quand une odeur épouvantable se répand dans la cour. Monsieur Clay et sa femme qui habitent au rez-de-chaussée doivent fermer la fenêtre malgré la chaleur. Et le lendemain, c'est pire. La concierge va vérifier les poubelles.
Oh, je comprends pas. Y a pas de la crever. D'où ça vient, cette odeur?
Et ça dure comme ça pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, le nez tendu, la concierge identifie la source de l'odeur. Une petite fenêtre de l'appartement de Monsieur Pell. Alors elle monte l'escalier, elle va sur le palier. L'odeur vient de là aussi. Cela dit, elle sait que Monsieur Pell se livre à des expériences de chimie. Il en a parlé avec un voisin, c'est peut-être ça. Une mixture qui a mal tourné. Alors elle frappe à la porte.
Monsieur Pell! Monsieur Pell!
L'autre entre-ouvre la porte. Il a la tête des mauvais jours.
Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, monsieur Pell, c'est à cause des odeurs qui s'échappent de votre fenestron, là, dans la cour. Les gens se plaignent, vous comprenez? Eh bien, je fermerai la fenêtre, voilà tout. Et comment va madame Pell? Elle est bien malade. Bonsoir.
Et il lui claque la porte au nez. Dans la soirée, à travers la fenêtre désormais fermée, les voisins voient l'ombre d'Albert Pell s'agiter autour de son fourneau, comme un diable penché sur les chaudrons de l'enfer. Et par la cheminée, tout là-haut, ils voient une grosse fumée sortir, en plein mois de juillet. La concierge, madame Vanspach, est bien sûr aux premières loges.
Oh, regardez-moi ça! Mais qu'est-ce qui manigance encore celui-là? C'est pas bien normal de chauffer à rouge en plein été. Il va faire éclater la cheminée, l'animal.
À un moment, Pell se rapproche de la fenêtre. Il s'aperçoit que tout l'immeuble le regarde. Alors il tente un grand drap noir en travers. Rideau. Le lendemain, une nouvelle odeur vient remplacer la précédente. La concierge renifle. Elle la connaît, cette odeur. C'est de l'eau de Javel. Il est en train de nettoyer. Mais nettoyer quoi? Pour être honnête, madame Vanspach a la même idée que vous, enfin. Je suppose. Elle se dit que peut-être... Oh non. Non, ça serait inconcevable. À 9h, Albert Pell sort de chez lui. Les locataires attendent qu'il tourne le coin de la rue et ils organisent une sorte de réunion.
Mais comment peut-on s'introduire chez elle? On n'a pas la clé. Et si on prend une échelle, hein? On regarderait par son vasistas, celui qui donne sur la cour. Mme Chesnel, vous qui êtes si jeune et légère.
La lingère grimpe à l'échelle. Elle colle son regard à la vitre.
D'après ce que je vois, c'est tout propre. Hein. Mais le lit n'est pas fait. Et le fourneau, vous le voyez? Ben, il est éteint. Mais il y a un gros tas de cendres devant. Un énorme tas de cendres. Comme s'il avait brûlé quelque chose. Oui, c'est ça. Quelque chose ou quelqu'un.
Les habitants du 9 rue de l'église sont désormais tous convaincus qu'il a tué sa femme, enfin sa compagne, et qu'il l'a réduite en cendres dans son fourneau.
On devrait aller voir la police. Moi, je dis qu'il faudrait... Il faudrait qu'on soit sûr, hein. Si c'est des expériences de chimie qu'il fait, on aura l'air marin. Oui, t'as raison. Et puis, imagine qu'elle réapparaisse là. Maintenant, on aurait l'air de quoi?
Eh oui, pour accuser quelqu'un de meurtre, il faut des preuves. Le lendemain, la concierge demande une fois de plus à Albert Pell.
Et votre femme, monsieur Pell? Comment qu'elle va?
Et elle s'entend répondre.
Elle est morte. Bien bonsoir.
Et il monte l'escalier sans ajouter un mot. Si elle est morte, ça change tout. La concierge se précipite au bureau de police. Et elle raconte tout au commissaire dans le désordre. La femme disparue, l'odeur bizarre, la javel, le feu d'enfer, le tas de cendres.
Moi, je pense qu'il l'a tué brûlé, monsieur le commissaire.
Mais le commissaire, lui, pense qu'elle se monte le bourrichon.
Écoutez, madame, je n'y crois pas vraiment, hein, à votre histoire. Je pense que vous vous faites des idées. Mais puisque vous insistez, allons sur place.
Et sur place, tout l'immeuble lui raconte la même histoire.
Bon, allez donc me chercher un serrurier.
À l'époque, pas besoin du mandat d'un juge et pas besoin non plus que l'intéressé soit présent pour que l'on fouille son appartement. Le serrurier arrive, il ouvre la porte, le commissaire entre avec deux de ses agents qui viennent d'arriver. C'est un petit logement de commerçant avec un salon, deux chambres, l'eau dans la cour et les toilettes sur le palier.
Monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire, voyez donc ce que j'ai trouvé.
Une scie. Une scie avec la lame pleine de graisse et du sang séché. Et dans le poêle de la cuisine, le tiroir est plein de cendres à ras-bord.
Bon, saisissez-moi ça, saisissez-le.
Et maintenant, il pourrait très bien aller arrêter Albert Pell à son magasin. Mais le commissaire choisit la méthode douce. Il laisse les deux agents sur place avec ordre de l'interpeller quand il rentrera du travail. Ce qu'ils font quelques heures plus tard. Et voilà l'horloger remonté comme une pendule dans le bureau du commissaire.
Monsieur le commissaire, je proteste. On m'a arrêté devant mon immeuble et devant mes voisins. Je suis un honnête commerçant.
Nous allons voir ça, monsieur. Nous allons voir ça. J'ai juste quelques questions à vous poser. Asseyez-vous. Je vous en prie.
Des questions? Mais à quel propos?
À propos de votre femme, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où elle est?
Mais d'abord, c'est pas ma femme, c'est ma compagne. Hein? Et ensuite, où elle est, j'en sais rien. Elle m'a quitté.
Alors, pourquoi avoir dit hier Madame Weinsbach, la gardienne de votre immeuble, qu'elle était morte?
Eh ben pour qu'elle me laisse tranquille, hein? Cette concierge se mêle un peu trop de mes affaires. Et puis, monsieur le commissaire, c'est toujours gênant d'avouer qu'on a été quitté par une femme.
Admettons. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé.
Ben, Élise était très malade, hein? Je pense qu'elle avait un cancer.
Je suis un peu médecin, j'étudie la médecine en tout cas.
C'est pour cela que vous avez refusé qu'elle voie le docteur.
À quoi bon dépenser de l'argent, hein, quand on a quelqu'un qui fait aussi bien l'affaire à la maison?
Continuez, monsieur Pell.
Donc elle se sentait mieux. Et elle m'a dit qu'elle voulait aller se reposer chez une amie. Et je suis descendu avec elle, j'ai été lui chercher un fiacre, et elle est montée dedans, et voilà, quoi.
Vous n'y avez pas demandé où elle allait?
Ben non. Je suis un gentleman, voyez-vous, hein. Je savais qu'elle voulait me quitter, et puis elle me devait 37 francs. J'ai pas voulu manquer d'élégance.
Pour quelqu'un qui n'a pas senti l'odeur de charogne, et qui n'a pas vu brûler le four à rouge, ça peut se tenir. Mais le commissaire ne se fait pas embrouiller le cerveau.
Bien, monsieur Pell, je vous arrête pour meurtre. Messieurs, conduisez monsieur Pell en prison.
C'est un scandale, enfin, c'est une erreur judiciaire, je me plaindrai.
Sauf que maintenant, il faut des preuves. Un couteau taché de sang et un tiroir de cendre ne suffisent pas. Ni les témoignages des voisins qui ont senti l'odeur et qui ont vu la cheminée fumer. Il faut du concret. Le mari a dit que sa femme voulait le quitter et qu'il était allé chercher un fiacre. Alors les policiers trouvent un fiacre, un seul, le 88-85, qui a chargé une femme ce soir-là à Montreuil. Mais il décrit la femme et ça n'est pas Élise Baumer. Les policiers rencontrent ensuite une des amies d'Élise Baumer, Madame Mariette.
Je voudrais vous montrer une lettre, monsieur le commissaire. Une lettre que j'ai reçue dès le début juillet. Que je l'ai mise. Ah, la voilà. J'irai chez vous lundi car j'aurai des choses à vous dire. Hélas, je ne peux pas vous écrire tous mes ennuis car il y aurait trop à vous conter. Je n'ai personne que vous pour me consoler de mes malheurs sans fin. Ne m'écrivez pas avant que je vous ai vu.
Et elle est venue?
Ah ben non. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose?
Je le pense, oui. En effet.
Il est temps de remettre Albert Pell sur le grill.
Bien, monsieur Pell, parlons de cette odeur dont les voisins se sont plaints au moment de la disparition de votre femme. Expliquez-moi.
Enfin, c'est pas ma femme, je vous l'ai dit, c'est ma compagne.
Entendu, monsieur Pell, entendu. Alors?
Eh ben, Elise était très malade, hein. Alors j'ai désinfecté, monsieur le commissaire, voilà tout. Les odeurs venaient de là. Elles venaient de mon souci d'hygiène, il n'y a rien d'autre. J'ai d'abord brûlé les draps, et puis les vêtements, ce qui sentait très mauvais. Et puis j'ai tout passé au chlore.
Monsieur Pell, chez vous, on a retrouvé une scie pleine de sang. Vous avez une explication?
Oh, c'est une vieille scie. Elle me servait à découper la viande de cheval, d'âne et de mulet que je donnais aux employés de mon ancien commerce. C'est moins cher, hein, c'est pour ça.
Il a réponse à tout, le diable. La police fait paraître un avis dans la presse pour tenter de retrouver Élise Baumer. Ça ne donne rien. En revanche, les policiers apprennent que ce diable d'Albert Pell a vendu les bijoux d'Élise Baumer et une partie de ses habits. Et qu'il a gardé l'argent pour lui. Mais il y a beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux. Les policiers découvrent que dans l'entourage de ce monsieur Pell, les femmes tombent comme à gravelotte. À commencer par sa propre mère. En 1872, elle est prise de violents maux de ventre.
C'est pas la peine de faire venir le docteur, Albert. J'irai mieux demain. Voilà tout.
Et le lendemain, elle est raide morte. Et un de ses amis raconte:
le corps de sa mère était encore tiède. Il s'est mis à retourner toute la maison. Il a même décollé les lattes du parquet. Il n'a rien trouvé, ni argent, ni bijoux, ni rien. Et moi, je l'ai entendu pester, hein. J'y comprends rien, j'ai tout retourné, et elle a dû mettre ses valeurs quelque part.
Nom de Dieu, Jésus-Marie-Joseph. Il aurait donc déjà tué sa mère, et sa première maîtresse aussi, et soudain tombé malade, Eugénie Maillère qu'elle s'appelait, couturière à l'Odéon, 10 ans de plus que lui. Et puis il y a eu sa première femme,
Eugénie Buffereau, épousée en 1880. Jolie dot et quelques biens. 2 mois après son mariage, elle est prise de maux de ventre. Ça dure 12 jours. Et elle meurt. Et lui ne prévient pas la famille. Il n'organise pas non plus de veillées funèbres. Et au voisin qui s'en étonne, à l'époque il répond
« Inutile, hein ? Elle se sauvera pas. »
Il a de l'esprit, ce monsieur Pell. Et lorsque sa belle-mère lui réclame la dot, estimant qu'un mariage aussi court ne devait pas profiter au mari,
« Vous pouvez vous brosser, hein ? Vous n'aurez rien, mais pas une épingle. »
Élégant, très élégant, monsieur Pell. 9 mois plus tard, il se remarie avec une certaine Angèle dotée de 5000 francs. Et comme la belle-mère a encore plus d'argent, il la persuade de venir habiter chez eux. La suite, vous l'imaginez, n'est-ce pas? Les deux femmes, la mère et la fille, tombent malades. Des maux de ventre épouvantables. La belle-mère décide de déménager et ça va tout de suite mieux. Du coup, elle incite sa fille à se séparer de son mari. Les deux femmes sont sauvées de justesse. Et c'est à ce moment-là qu'Albert séduit Élise Baumeur et emménage à Montreuil. Il a un sacré palmarès, hein, le coco. À part ça, les policiers apprennent aussi qu'il a été interné chez les fous à l'hôpital Sainte-Anne à Paris parce qu'il arborait des décorations qu'il n'avait pas gagnées et qu'il prétendait être diplômé en mathématiques et en médecine et que c'était faux. Pourquoi chez les fous plutôt qu'en prison, ça ? Mystère. Le juge d'instruction, maintenant chargé de l'enquête sur la disparition d'Élise Baumeur, ordonne d'exhumer le corps de la première femme de Pell, Eugénie Buffereau, et de le confier à 2 docteurs.
Monsieur le juge, nous avons fait des prélèvements tant sur le cadavre que sur la terre autour du cercueil, et réalisé ensuite des analyses. Eh bien, figurez-vous que nous avons trouvé de l'arsenic. Sur le corps, il y en a dans l'abdomen, dans le foie et dans le rein. Et il y en a aussi tout autour du cercueil. Elle a été empoisonnée, votre Madame Buffereau.
Mais rassurez-vous, Albert Pell a une explication.
De l'arsenic ? Mais c'est parce qu'il prenait de la liqueur de Fowler. Chacun sait que c'est un médicament qui contient de l'arsenic.
Peut-être, peut-être, monsieur Pell. En attendant, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, au pluriel, celui de votre première femme, Eugénie Buffereau, et celui, bien sûr, de la dernière, qui n'était pas sa femme, Élise Baumeur. Le procès d'Albert Pell s'ouvre aux assises de Paris le 11 juin 1885. C'est une belle affaire d'empoisonnement, elle passionne les journaux depuis le début, et donc elle attire les foules au palais de justice de Paris. Aucun ténor du barreau n'a accepté de défendre Albert Pell. C'est dire si tout le monde pense qu'il est cuit d'avance, hein. Du coup, c'est un avocat commis d'office, Maître Joly, qui s'y colle. Sur une table, au milieu de la salle d'audience, trônent les pièces à conviction. Des échantillons de terre prélevés sur la tombe d'Eugénie Buffereau, la première femme d'Albert, la fameuse scie avec laquelle il aurait découpé Élise Baumeur, et enfin le fourneau dans lequel il aurait brûlé son corps. Et comme d'habitude, Albert a réponse à tout.
Votre compagne a disparu, monsieur Pell. Une femme qui disparaît, ça se voit tous les jours, non?
La foule frémit et manque d'applaudir. Il fait aussi son cinéma quand arrivent les experts.
Voilà donc comment nous avons procédé. Nous nous sommes procurés un fourneau du même modèle que celui de l'accusé. Et ensuite, nous nous sommes procurés un cadavre du même poids que Madame Baumeur, c'est-à-dire 60 kilos. Nous avons mis le cadavre à brûler et en 40 heures, il a été complètement réduit en cendres. Et de là, nous concluons que Monsieur Pell a de toute évidence pu brûler le corps de sa femme. De sa compagne, monsieur l'expert! De sa compagne! C'est pas ma femme! De sa compagne, si vous préférez. dans son fourneau.
Albert Pell va-t-il trouver réponse à cela aussi? Ah ben oui, bien sûr.
Si j'ai, comme vous le dites, empoisonné et brûlé Élise dans mon poêle, comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé d'arsenic dans le sang?
Quand nous avons été missionnés en tant qu'experts, il s'était écoulé 3 mois. Et en 3 mois, l'arsenic a très bien pu disparaître des cendres.
Le juge lui parla ensuite de sa passion pour la chimie.
Vous avez dit à l'un de vos amis, et j'ai là le procès-verbal de son interrogatoire, que vous faisiez des recherches sur des poisons indétectables par la science.
Est-ce exact, monsieur Pell?
Oui, oui, et alors? Hein? Je suis un homme de science. Je veux faire avancer la recherche.
On a trouvé chez vous, monsieur Pell, un grand nombre de matières toxiques.
Ah bah oui, normal, normal, hein. J'utilise du cyanure de potassium pour nettoyer les dorures de mes montres. Ça ne fait pas de tous les horlogers des assassins.
Décidément, il a toujours réponse à tout. On fait témoigner son ex-femme, Angèle, la survivante, qui étrangement le soutient.
Je ne puis oublier que je suis sa femme. Et je n'ai pas assez de preuves pour l'accuser.
Puis vient le réquisitoire de l'avocat général. Assez brillant.
Non, Albert Pell n'est pas jugé sur des présomptions vagues. Je refuse d'entendre que ce verdict reposerait sur des impressions. Si votre maîtresse, monsieur Pell, Eugénie Meyer, était toujours en vie, elle serait venue témoigner, n'est-ce pas? Puisque votre procès a fait la une de tous les journaux. Or, elle n'est pas là, hein? Pas plus qu'Élise Baumer.
Sans surprise, il réclame la peine de mort. Maître Joly, l'avocat de la défense, qui est commis d'office et qui n'a aucune expérience, tente de démontrer l'absence de preuves. Il est mauvais et ça se voit. Le jury se retire. Il décide d'acquitter Albert Pell du meurtre de sa première femme Eugénie. Ce qui est étrange parce que, pour le coup, il y a des preuves. L'arsenic. En revanche, il condamne Albert Pell à la peine de mort pour le meurtre d'Élise Baumer.
Ah bien écoutez, j'accepte, hein? J'accepte avec résignation le sort qui m'incombe. Mais souvenez-vous, messieurs, que vous condamnez un innocent.
Fin de l'histoire. Enfin, pas tout à fait. Parce que Albert Pell se pourvoit en cassation. Et le jugement est cassé, figurez-vous, pour vice de forme. Un juré qui n'avait pas les garanties de moralité requises. Et donc Pell est rejugé à Meaux le 14 août 1885. Et là, il échappe à la guillotine.
Le jury vous condamne, monsieur Albert Pell, aux travaux forcés à perpétuité.
On l'envoie au bagne de Bouraille, en Nouvelle-Calédonie. Il y reste presque 40 ans. Il y meurt en 1924, à l'âge de 74 ans, devenant ainsi le plus vieux bagnard de l'histoire de France.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.